Chapitre 14. Les deux cadavres étaient identifiés. Lucien Olensky, découvert calciné et mort d'une balle dans la tête, et Gabriel Ramintorosoa, dont le tronc avait été repêché dans la Seine. Deux jeunes malfrats de petite pointure, spécialisés dans le vol à l'arraché. Mais pourquoi les avait-on éliminés? Les circonstances de leurs assassinats ne correspondaient pas aux méthodes employées entre bandes rivales. Cela cachait quelque chose. Si on avait cherché à les éliminer, c'est qu'ils gênaient, mais qui? Sûrement pas des amateurs. L'enquête allait se révéler longue et difficile. Il faudrait, une fois de plus, analyser chaque indice pour en tirer le maximum d'informations. Et de quels indices disposait-il? Les objets volés trouvés chez chacun des voyous. Il fallait identifier les propriétaires, les interroger et voir s'ils étaient en relation avec les deux jeunes. C'était problématique, mais aucune piste ne devait être négligée. De plus, les vols à l'arraché n'étaient peut-être qu'une partie des activités d'Olensky et de Ramintorosoa. Il faudrait chercher dans leur entourage et le milieu du 14e. Le lieutenant Grosminet et ses collègues du commissariat de l'arrondissement seraient d'une grande aide avec leur connaissance du terrain et leurs indicateurs. Il avait aussi l'arme qui avait servi à tuer Olensky. Seule une balle était en possession des policiers. La police scientifique en avait tiré le maximum d'informations. Celle-ci ne serait utile que si le pistolet était retrouvé, prouvant ainsi le crime. Mais les chances de le retrouver étaient infimes. Si l'hypothèse de professionnel était exacte, il n'aurait pas commis l'erreur de garder l'engin. Le marché des armes de guerre est florissant avec tous les conflits existants. Des attaques de fourgons bancaires récents montrant qu'on pouvait avoir facilement même accès à des armes lourdes. Il n'y avait plus qu'à. Le commissaire Le Pennec réunit sa brigade et exposa ses cogitations. Il donna à chacun ses ordres et chaque policier quitta la réunion avec une tâche bien précise à effectuer. Une semaine après, toute l'équipe était à nouveau réunie. Le groupe qui était chargé des objets volés avait identifié les propriétaires. Il les avait interrogés, ces derniers contents d'avoir retrouvé une partie de leurs biens. Mais rien d'exploitable de ce côté-là. C'étaient toutes des femmes ou des personnes âgées qui avaient eu la malchance de se trouver sur le chemin des voyous. La plupart s'en étaient tirées avec une grande frayeur et parfois quelques contusions, leur faiblesse ne leur ayant pas permis de résister. Seules deux femmes avaient été sérieusement blessées, une jeune documentaliste, Isabelle Marcilly, et une commerçante de la rue Didot, qui avait été traînée sur plusieurs mètres, s'était retrouvée à l'hôpital. Le groupe chargé des fréquentations de Gabriel Olensky et Gabriel Ramintorosoa exposa les résultats de ses recherches. Les officiers de police du commissariat du 14e avaient activé tous leurs correspondants du secteur, mais aucune information intéressante ne permettait d'élucider la mort des deux voyous. Le commissaire Le Pennec était un peu déçu, mais les enquêtes policières sont pavées de fausses pistes, d'impasses. C'est ce qui fait la grandeur du métier. Ne jamais se décourager et continuer quels que soient les obstacles, les désillusions. Le hasard est un des facteurs d'une enquête. C'est la raison pour laquelle il ne faut négliger aucune piste et aucun indice. En l'occurrence, le hasard sourit au lieutenant Grosminet. Sous son aspect désabusé et parfois désinvolte, c'était un redoutable policier avec une excellente mémoire. Chaque détail des affaires qu'il avait à traiter était enregistré dans son cerveau. Le détail mettait parfois du temps à sortir. C'est justement un détail qui l'incita à téléphoner au commissaire Lepennec. Il lui rapporta les paroles d'Isabelle Marcilly. Il ne l'avait pas noté au rapport le jour de la déposition de la jeune fille, mais maintenant, compte tenu de l'aspect nouveau que prenaient les événements, avec l'assassinat de deux hommes, cela pouvait être un indice. La jeune fille lui avait déclaré qu'il lui avait semblé que son appartement avait été fouillé pendant son séjour à l'hôpital. Aucun objet n'avait été dérobé. Pourtant maintenant, rétrospectivement, il pensait qu'Isabelle était persuadée d'avoir subi une intrusion dans son domicile. Elle n'avait rien d'une mythomane. Le commissaire Lepennec raccrocha. Une fois de plus, son cerveau fonctionna à grande vitesse. Certainement, les deux voyous ou des comparses avaient pénétré dans l'appartement d'Isabelle Marcilly. C'était facile, ils avaient les clés et l'adresse. Mais là où cela ne collait pas, c'est que rien n'avait été dérobé. Compte tenu de leur profil, cette attitude était inexplicable. Le vol du sac de la jeune documentaliste n'était pas forcément le mobile de l'agression. Les deux malfrats s'étaient emparés du sac pour prendre les clés. Ils agissaient donc sur ordre. Mademoiselle Marcilly avait déclaré que seuls des détails infimes lui avaient permis de supposer que son logement avait été fouillé. Donc, on avait affaire à des professionnels. Olinsky et Raminto Roussoa auraient été bien incapables de procéder avec une telle délicatesse. Mais que cherchaient ces individus? Avaient-ils trouvé ce qu'ils cherchaient? Apparemment, rien n'avait disparu. Les choses s'éclaircissaient un peu. Lucien Olinsky et Gabriel Raminto Roussoa n'étaient que des comparses chargés de dérober les clés. Leur commanditaire devait être déterminé et impitoyable, car manifestement, ils avaient éliminé les deux jeunes devenus des témoins gênants. L'affaire tournait maintenant autour d'Isabelle Marcilly. En quoi une modeste documentaliste pouvait intéresser les membres d'un réseau? Il fallait orienter l'enquête en direction de la famille Marcilly. Lepennec convoqua au quai des Orfèvres monsieur et madame Marcilly. Ils s'y rendirent, pensant que les agresseurs de leur fille avaient été retrouvés. Ils furent fort surpris quand le commissaire leur parla des assassinats mystérieux des deux voyous, du stylo appartenant à leur fille retrouvé au domicile d'Olansky et de la fouille discrète du logement d'Isabelle. En écoutant toutes ces informations, François Marcilly devint tout pâle. Il demanda à parler au commissaire sans témoin. Lepennec l'emmena dans un bureau vide et ferma soigneusement la porte. Monsieur Marcilly révéla au commissaire, sous le sceau du secret, qu'il était physicien et qu'il travaillait depuis plusieurs années sur la fusion nucléaire. Lepennec connaissait vaguement, pour avoir lu la presse, les recherches menées dans ce domaine. Marcilly lui expliqua que tous les pays s'étaient associés pour un projet, appelé projet ITER, pour démontrer la possibilité scientifique et technologique de la production d'énergie par la fusion des atomes. Contrairement à la fission qui consiste à obtenir de l'énergie en brisant des atomes lourds, la fusion consiste à obtenir de l'énergie en fusionnant des atomes légers. La difficulté est que cette opération demande des températures extrêmement grandes, comme celles qui existent dans le Soleil. Comme aucun matériau solide ne résiste à de telles températures, il faut contenir les échantillons en fusion dans des champs magnétiques. Ces recherches vitales pour la survie énergétique de l'humanité demandent des sommes d'argent considérables qu'aucun pays n'est capable d'assumer seul. Mais malgré ces accords de coopération, chaque pays continue à procéder à des recherches individuelles dans l'espoir d'arriver le premier à la domestication de la fusion nucléaire. Et lui, François Marcilly, travaille depuis plusieurs années en secret à un projet de fusion des noyaux par bombardement de ceux-ci par des lasers mégajoules. Il se demandait si l'agression de sa fille ne le visait pas personnellement.